Pour une écologie authentiquement intégrale, telle est la réflexion menée par la Conférence des évêques de France dans son ouvrage « L'espérance ne déçoit pas ». Tous les candidats à l'élection présidentielle ont intégré dans leur programme des propositions en faveur de l'écologie. Qu'est-il alors nécessaire de retenir avant de mettre son bulletin dans l'urne ces dimanches? Nous en parlons ce matin avec Alexis Ferté, membre de la Commission pour la sauvegarde de la création pour le diocèse de Toulouse. Bonjour Alexis Ferté.
Bonjour.
La plupart des candidats abordent l'écologie dans le sens de protection de la Terre, plus ou moins de centrales nucléaires, développement du réseau ferroviaire, augmentation ou diminution des éoliennes, réduction ou interdiction des pesticides, etc. Qu'y a-t-il de commun à ces programmes?
Je trouve que ce qu'il y a de commun, c'est que tous ces programmes font de la question écologique finalement une question secondaire par rapport aux questions économiques et aux questions de la production. En résumé, on ne trouve rien qui va à l'encontre d'une certaine pensée économique qui veut plus de production. Or, on sait que plus de production implique de l'autre côté aussi plus de consommation. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine déception pour l'ensemble de ces programmes parce qu'on a des propositions qui ne sont pas trop à la hauteur des enjeux. On ne retrouve pas les propositions qui vont aussi loin, qui vont aussi fort que les propositions, par exemple, de la Convention citoyenne pour le climat, donc qui avait émis 150 propositions. Voilà. Après, j'ai trouvé qu'il y avait aussi des points de divergence, mais ce grand point commun quand même cristallise un petit peu les déceptions.
Est-ce que cette déception, vous la voyez aussi dans les programmes du candidat écologiste?
Oui, on le retrouve. Il y a certes des mesures qui... Bon, voilà, faut arrêter le nucléaire très vite. Il y a des tas de mesures, mais je trouve qu'on c'est plutôt l'absence, si vous voulez, de propositions exigeantes, je dirais, qui me semble importante. Après, on pourrait ajouter que ce qui me marque, c'est que ces propositions ne remettent pas en question finalement nos modes de vie. On n'assiste pas à, disons, une proposition pour l'ensemble des citoyens, une invitation à changer de mode de vie. Par exemple, je vous donne un exemple, tous les candidats sont pour, peu ou prou, sont pour la transition vers la voiture électrique et assez peu parlent de mesures vraiment pour réduire la voiture, tout simplement, pour l'utiliser moins. Mais par exemple, donc pour certains candidats, il y a cette proposition de baisser la vitesse autorisée sur les autoroutes. Donc ça, c'est un exemple de mesure qui peut baisser l'usage de la voiture, parce que si on peut aller moins vite sur l'autoroute, ça devient moins intéressant de prendre la voiture, et donc on peut penser qu'il y ait moins d'usage. Donc il y a quand même des propositions, y compris dans le camp écolo, qui vont dans ce sens-là.
Oui. Est-ce que vous avez repéré quand même des points de divergence entre les programmes des différents candidats? Et de ce fait, est-ce qu'il y a des points d'attention à observer dans les différentes propositions?
Il y a des points de divergence. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que il y a peut-être parfois une surenchère. Donc, par exemple, sur la question nucléaire, il y a ceux qui veulent l'arrêter au plus vite en 2035. Donc ça, c'est pour le parti d'Europe Écologie Les Verts. Il y a ceux qui veulent un arrêt progressif du nucléaire. Puis il y a ceux qui veulent, au contraire, plutôt à droite, construire de nouvelles centrales et faire de cette énergie-là vraiment l'énergie de la transition, l'énergie de l'avenir. Voilà, il y a des... Je trouve que parfois, il y a une surenchère autour de certaines questions. On va un peu s'écharper sur ça. Et pas tant, finalement, sur d'autres propositions qui seraient plus exigeantes pour nos modes de vie, on va dire.
Un sondage ELA pour BFM TV du 20 octobre dernier montrait que 23% des personnes interrogées citaient le pouvoir d'achat comme première préoccupation des Français, avant la sécurité, l'immigration et la santé. Donc l'écologie n'arrivait qu'en cinquième position. Est-ce qu'une crise comme celle que nous traversons liée à la guerre en Ukraine pourrait inverser cette tendance?
On disait déjà un peu ça pour la crise de la pandémie. On avait beaucoup d'espoir sur ça. On se disait une prise de conscience qui va se faire. Les citoyens vont prendre conscience de toutes les dépendances dans lesquelles ils sont, qui nous sont un peu invisibles du fait de la mondialisation. Et pour la guerre en Ukraine, il y a exactement les mêmes attentes. On se dit, on va se rendre compte que on vit dans un monde quand même qui est déstabilisé par tout un tas de choses. On va se rendre compte que notre mode de vie dépend d'énormément d'énergie, dépend d'énormément d'échanges avec beaucoup de pays, dépend aussi d'un système sur lequel on n'a pas trop de prise. Voilà, quand on a plus de gaz, quand on a plus de pétrole, ou parce que les prix vont trop haut, on se retrouve un peu pris au piège, quoi. Les alternatives sont pas si nombreuses. Donc j'espère qu'il va y avoir une prise de conscience. Et au niveau politique, on attend du coup des propositions, enfin des attitudes qui vont aussi dans ce sens-là. Et ça laisse quand même pas mal espérer quand on voit que on utilise beaucoup maintenant en politique, depuis la guerre en Ukraine, le mot résilience. On a un plan de résilience pour l'alimentation. Or la résilience, c'est quand même une notion qui est très importante du côté de l'écologie. Comment est-ce qu'on va s'adapter au réchauffement climatique, enfin, au dérèglement climatique plutôt. Comment est-ce qu'on va être capable de réinventer une société qui est moins dépendante de toutes ces énergies. Donc rien que par la sémantique, on voit quand même que dans le champ politique, il y a quelque chose qui arrive et qui pourrait changer la donne.
À suivre. Donc, la conférence des évêques de France suit l'appel du pape François dans son encyclique de 2015, Laudato si. Elle appelle à une écologie intégrale. De quoi s'agit-il exactement ?
Une écologie intégrale, c'est d'être capable de prendre conscience que tout est lié dans le monde et que de restaurer, on va dire, ses relations. Donc notre relation à la nature, à la création. Donc prendre soin de notre milieu humain finalement, parce que on utilise parfois le mot environnement, mais il faut prendre conscience que l'homme est un animal social et que son milieu, c'est la nature, c'est la création. Donc s'il n'en prend pas soin, il risque de moins bien arriver à se définir lui-même. Donc cette relation avec la nature, cette relation aux autres, donc dans l'écologie intégrale, il y a aussi le fait que il y a pas que moi qui dois trier mes déchets, etc., essayer d'émettre le moins de carbone possible, mais que ça n'a de sens que si c'est un mouvement commun et qui nous rapproche les uns des autres. Et enfin, dans l'écologie intégrale, vraiment au sens du pape François, il y a cette relation à Dieu. On parlait de prendre soin de la création, mais ça ne se fait pas sans référence au Créateur. Sinon, on perd aussi une partie du message de cette création, une partie de sa vocation, et on en prend soin peut-être de façon inappropriée. Donc voilà, l'écologie intégrale, c'est de faire marcher ces trois relations conjointement. On sait qu'elles sont liées aussi. Prendre soin de la création, prendre soin des autres, même s'il est à l'autre bout du monde, et prendre soin aussi de notre relation à Dieu.
Alors prendre soin des autres, on en avait parlé lors d'une précédente interview sur la protection de la famille et du respect de la vie. On avait étudié comment chaque candidat pouvait prendre soin justement de la vie aux deux extrêmes, au moment de la naissance et au moment de la mort, et puis protéger la famille. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets auxquels il faudrait être attentif ?
Je pense que quand on parle de la vie, il y a effectivement comment elle débute et comment elle se termine. Entre les deux, il y a quand même pas mal de temps. Donc comment est-ce qu'on prend soin de la vie lorsqu'elle est déjà née et qu'elle n'est pas sur le point de mourir ? Ça, c'est une question qui intéresse tous ceux qui veulent faire, je dirais, de l'écologie intégrale. Et là, à l'approche des élections, je dirais, il y a un point d'attention, enfin peut-être deux points d'attention sur ça. Il y a prendre soin de la vie au niveau du travail. Donc quelle est la nature du travail qu'on propose ? Donc il y a beaucoup de propositions économiques pour relancer la France, faire de la France une super nation, qui soit la première nation à se passer du pétrole, du gaz, on retrouve ça dans les discours. Hein. Mais prendre soin à la nature du travail que ça crée. Hein. On sait qu'il y a de plus en plus de travail de nuit, de travail précaire. Il ne s'agit pas seulement de salaire, il ne s'agit pas seulement de retraite. Ça, je n'ai pas besoin de le souligner, hein. C'est des points d'attention auxquels
Tous les candidats pensent.
Tout le monde pense. Mais il s'agit de penser à... est-ce que c'est sain de travailler de nuit, d'avoir des intermittences de travail, d'avoir... Et puis aussi, je pense à tous les métiers qui... C'est un phénomène moderne, hein, où on peut passer une journée en voyant un visage ou deux visages, mais où finalement, il y a l'absence de contact direct humain. Il peut y avoir un contact virtuel via toutes les technologies numériques, mais je pense qu'il y a quand même... faire attention à ce que le contact réel ne se perde pas. Et un deuxième point d'attention, je trouve, là aussi où on attend un petit peu les candidats à cette présidentielle, c'est, je dirais, au niveau international, on sait que les pauvres, les plus pauvres, dont nous sommes responsables par nos modes de vie et par notre consumérisme, je dirais, sont pas des personnes qui habitent en bas de chez nous ou qui habitent même parfois dans notre ville, bien sûr, s'il y a quand même des liens, mais c'est plutôt ceux qui, à l'autre bout de la planète, d'une part subissent les conséquences du réchauffement climatique et ceux qui subissent les cadences infernales que suppose notre production de biens abondantes et low cost, donc une alimentation qui est faite. Voilà. On peut se sentir responsable de la déforestation en Amazonie si on continue, voilà, c'est un peu un cliché, hein, mais à importer du soja du Brésil et qui est fait, je dirais, sur les cendres de cette forêt. Donc là aussi, il y a quelque chose à voir. Quelles sont les propositions des candidats finalement pour, au niveau de nos modes de vie et au niveau international, freiner c'est ce qu'on a pris maintenant pour des habitudes, quoi. On voit une forêt qui recule, qui brûle, bon bah ça fait partie, je dirais, du paysage politique. Et voilà, moi j'attends en tout cas les. Je trouve ces propositions-là, elles sont pas très très visibles, elles sont très masquées, vous le disiez, par d'autres problématiques dont on peut parler aussi, hein, de la santé, du pouvoir d'achat. Je pense que monter, c'est la question de nos dépendances à certains systèmes industriels et certains. Au niveau international, serait une bonne chose.
Donc c'est quand même indépendamment de tous ces programmes et de tous les sujets que les candidats peuvent soulever, il y a peut-être à l'occasion de cette élection et de tous ces débats, une question à se poser sur sa propre conversion écologique.
Oui, tout à fait. Je pense que tous les. Enfin, là, on parle beaucoup de présidentiel, hein. Donc on fait face à tout un tas de mesures qu'on doit juger, estimer, discerner. Chacune de ces mesures n'est cohérente que dans la mesure où elle est en adéquation avec un certain mode de vie. Si un candidat proposait, je dirais, la fin des centrales nucléaires, mais que derrière on ne propose pas d'alternative de mode de vie, bon, bah, on va avoir un problème d'une nature différente. On va devoir faire d'autres centrales, etc. Voilà, je pense que c'est aussi une conversion qui, pour nous, quand on utilise ce terme de conversion écologique, on le pense beaucoup sur le, en analogie avec la conversion spirituelle. Je me convertis, donc c'est un acte très personnel. Mais la conversion écologique, enfin, telle qu'en parle le pape François en tout cas, c'est vraiment une conversion communautaire qui n'a de sens que si on la vit avec les autres, avec notre communauté humaine, avec notre communauté politique. Donc il ne s'agit pas du tout d'exclure la conversion écologique de nos choix de vie en commun.
Merci beaucoup, Alexis Ferté. Merci pour votre éclairage ce matin sur les questions d'écologie à l'approche de l'élection présidentielle.
Merci.